Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour, 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 galériennes, galériens. Eh bien, nous vous avons coupé, en effet, la fin de la rediffusion du Marégraphe. Moi, j'aime bien le Marégraphe, hein, sur la corniche. C'est un monument marseillais. Vous savez qu'il a été restauré, vous savez qu'il refonctionne. Bon, c'est bien, vous irez voir le Marégraphe et on pourra tous s'en réjouir. Alors, nous sommes le mercredi 29 janvier 2025. La Terre ne tourne pas plus rond. Les dirigeants disent et font les pires bêtises. Les pauvres et les précaires payent les pots cassés de la société capitaliste. Mais bon, voilà, nous sommes au rendez-vous de Livres et Amis. Dominique et Françoise au micro, Sonia à la technique, avec un stagiaire avec nous aujourd'hui. C'est Fabricio, c'est ça? Non? J'ai pas retenu son prénom. Enfin, bref.
Oui, c'est bien Patricio.
Ah, c'est Patricio, voilà. Donc, nous sommes tous rassemblés pour vous faire une émission la plus sympathique et intéressante possible, bien sûr. La semaine dernière, nous avons, avec Octave Mirbeau, raconté les bassesses et les turpitudes de la bourgeoisie normande du début du XXe siècle. Eh bien, aujourd'hui, nous irons au Brésil. Et que je vous dise tout de même, dans le journal d'une femme de chambre, notre Célestine, elle finissait par quitter l'élan l'air avec un autre domestique de la maison pour aller tenir un café à Cherbourg. Alors sans doute que servir le public, c'était mieux pour elle que de servir l'avarice et les vices d'une famille bourgeoise. En tout cas, c'est ce qu'elle se disait à l'époque et nous ne le saurons jamais parce que Octave Mirbeau ne nous en a pas dit plus. Enfin bref, c'est vrai que les brèves de comptoir réactionnaires et xénophobes des bistrots du début du XXe siècle, ça devait aussi valoir son pesant de cacahuètes et ça ne devait pas être toujours reluisant. Mais enfin bon, nous laissons Célestine à son destin et nous allons au Brésil. Plus précisément dans le Minas Gerais, avec Conceição Evaristo, qui nous fait partager la vie de celles et ceux qui se battent là-bas aussi contre un système oppressif. Conceição Evaristo, elle choisit dans son roman Insoumise, c'est le titre du livre d'aujourd'hui. Elle choisit d'aller chercher les témoignages de vie d'une douzaine de femmes insoumises, justement, et qui réussissent parfois à se libérer des liens qui les contraignent. C'est un témoignage de leur vie et ce témoignage, en effet, Conceição Evaristo nous le livre parce que la résignation ne trouve plus aucune place dans la vie de ces femmes. Elles résistent, elles sont insoumises en effet aux pressions et aux agressions du racisme, du sexisme et des conventions sociales d'une société encore très patriarcale. Conceição Evaristo est la voix la plus importante peut-être de la littérature afro-brésilienne à l'heure actuelle, et en particulier donc parce que c'est une voix féminine. Entre poésie et engagement, toute son œuvre témoigne du combat de ces femmes, guerrières anonymes, paysannes anonymes, citadines anonymes, mais qui, en témoignant, construisent leur liberté et affirment leur dignité. Ces récits sont en fait très souvent fictionnels, c'est-à-dire que les témoignages ont été remaniés par l'auteur et elle y a ajouté un petit peu ce qu'elle avait envie d'y ajouter. On pourrait dire que ce sont des nouvelles qui se succèdent les unes aux autres pour faire ressortir cette sororité des femmes afro-brésiliennes et nous donner une image assez fidèle, finalement, de la société dans laquelle elles évoluent. Vous vous relèverez peut-être au fil de la lecture des formes un petit peu bizarres, voire maladroites, peut-être liées à la traduction, peut-être volontaires, justement, dans la bouche de certaines femmes. Et en tout cas, ne nous trompons pas, Concesa Evaristo, c'est bien, sur le plan international, une grande écrivaine renommée, une grande écrivaine reconnue, qui a été couronnée de nombreux prix et qui a même été surnommée la Toni Morrison du Brésil pour précisément ses romans, ses récits de la lutte contre le racisme et la discrimination. Alors commençons avec l'histoire de Marie. Marie, comment s'appelle-t-elle ?
Benedita.
Marie Benedita, qui pourrait précisément être celle de son auteur, puisque c'est celle d'une femme qui fait tout pour fuir son village d'origine et pour vivre dans le monde, comme une artiste. C'est Françoise qui va nous dire ça.
L'air timide mais déterminée, elle me confia vouloir me raconter un fait de sa vie. Elle voulait m'offrir son corps-histoire. Marie Benedita commença en m'avouant sa passion pour les langues étrangères. En plus du portugais du Brésil, elle parlait avec aisance l'anglais, le français et l'espagnol. Elle avait une connaissance basique de quelques langues africaines comme le kimbundo, le swahili et parlait sans trop de difficultés le grec et l'arabe. Elle avait mémorisé beaucoup de vocabulaire norvégien et tchèque et connaissait la structure linguistique et grammaticale de ces langues, qu'elle lisait, mais avait beaucoup de mal à prononcer, reconnut-elle. Autodidacte, son polyglottisme s'était étoffé peu à peu. L'anglais était la seule langue qu'elle avait apprise en prenant quelques cours. Mais en ce moment, m'avoua-t-elle, son intérêt était tourné vers les langues autochtones brésiliennes. Elle voulait en apprendre au moins deux, le Maxakali et le Negatu.
Après, nous les apprendrons, mais une autre fois, hein, plus tard.
Après cette brève présentation, faite avec un enthousiasme dissimulé, elle me donna son nom en insistant. Elle s'appelait Marie Benedita et elle ajouta que lors de ses voyages de par le monde, il y avait certaines expressions en langues étrangères qu'elle aimait immensément répéter.
Oui, Marie, ou en fait Mary, puisqu'elle a choisi de s'appeler non pas Maria, comme beaucoup de filles d'origine, enfin dans des pays avec des langues d'origine latine, mais Mary comme une fille d'origine de langue anglophone. Donc elle conjoint dans son nom à la fois le prénom de Mary, anglophone, et bien sûr elle garde Benedita, qui est vraiment son nom brésilien.
Une expression donc qu'elle aimait, l'une d'entre elles était « my sister ». Et elle commença. « My sister, celle qui a les yeux profonds, commence à pleurer tôt et se lève à l'aube pour sécher ses larmes toute seule. C'est pour cela que je suis si pressée de raconter mon récit. J'aime me lever à l'aube, être la première. Rien ne me garantit que l'attente me conduise où je veux. Lorsque j'attends, j'ai peur que les jours m'échappent entre les doigts. Il n'y a que ceux qui ont le Yamini, d'abord en eux-mêmes, qui se lancent sur les chemins du monde. Je dis souvent que le temps file, c'est pour cela que j'ai toujours couru depuis toute petite. Je courais pour aller à l'école, je courais pour aller à l'église et entrer tout essoufflé dans la maison de Dieu, effrayant le prêtre et embrassant ma famille. Je courais sans motif apparent sur la terre de notre ferme. Je grimpais et descendais les collines qui entouraient notre maison, imprimant l'urgence à chaque pas, comme si tout allait disparaître sous mes pieds. Cependant, il y avait quelque chose qui me freinait et me calmait, me laissant dans un état extatique. C'était la contemplation de la map monde. J'aimais Ibou d'Izar sur la taille du monde. Tous les cours de géographie qui me donnaient la possibilité de penser à la grandeur de la Terre avaient pour effet de calmer mes courses désespérées. Calmement, je traçais alors des itinéraires de voyage.
Ah, ouais, je sais pas, il faut peut-être que je prenne le relais, là. Il y a Françoise qui est en train de s'étouffer. Alors, elle nous dit qu'elle court pour aller à l'école, ça y est. C'était la contemplation de la map monde, donc, qui la calmait, et elle restait des heures entières, un atlas dans les mains, imaginant des voyages sur des chemins infinis. Je continue ou tu reprends ? Non, je continue. Mais comment une petite fille née à Mangas à Ruiz, la septième de 10 enfants d'une famille de petits paysans, pourrait-elle découvrir le monde, apprendre des langues, peindre des tableaux, jouer du piano ? Comment, my sister, comment, insistait Marie Benedita en me regardant avec aplomb, comme si j'avais la réponse ? Elle seule savait. Eh bien voilà, j'ai inventé, affirma Marie Benedita victorieusement. Et ce fut « My way, my creation ». Veux-tu l'entendre ? Cette petite fille, née à Mangas à Ruiz, toujours prompte, rapide en parole, en pensée, décida un jour de se calmer, ou plutôt elle décida une nuit de se calmer. Je me mis à imiter les pas et à feindre la fatigue d'un couple de tortues qui avait élu domicile dans notre jardin. Nul besoin d'autre mise en scène, nul besoin de pleurer. Je me ralentis. Et les bougies surgirent immédiatement, avec les prières de ma mère, de mon père, de ma marraine, devant l'autel de Notre-Dame de Grâce, pour que la force des mouvements reprît possession de moi. Mais rien n'y fit. Je continuais, telle une pierre, plus solide, plus déterminée dans mon désir de gagner le monde. Ma famille me crut malade. Alors, comme je ne pouvais pas être guérie par les infusions, les bénédictions, les prières, les promesses, et qu'il fallait bien faire le diagnostic d'une maladie potentiellement grave, le pharmacien dit que oui, il fallait m'orienter d'abord vers la guérisseuse, qui ne fit rien, et puis vers d'autres sommités en dehors de Mangas à Ruiz. Il n'y avait qu'une solution, m'envoyer dans la capitale de l'État, où se trouvaient des médecins et de grands hôpitaux. Rien ne fut impossible pour ma famille. Il y avait même une sœur de mon père, en fait une brebis égarée de la famille, qui habitait à Horizonte. Donc, cette tante, que je n'avais encore jamais rencontrée, m'accueillit avec une grande sollicitude. Je fus tellement heureuse de mon départ pour la capitale qu'en arrivant chez tante Aurora, en fait, après mon voyage en train et en bus, j'avais oublié ma maladie factice. Tati se réjouit de ma vitalité et me rassura. Je n'avais rien à craindre, elle m'emmènerait voir le médecin dès le lendemain et je pourrais ensuite rester avec elle le temps nécessaire. Il fallait quand même que mes parents le permettent. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu ni son frère, ni ses frères, ni en particulier mon père. Elle n'avait vu ma mère que le jour de leur mariage, et comme elle ne voulait pas d'ennui, elle voulait à la fois m'aider, mais ne pas se fâcher avec eux. Je notais une vraie complicité dans le ton de la voix. Tante Aurora, sans même me connaître, avait sûrement deviné la supercherie. Je passais une nuit agitée, je ne réussis à m'endormir que vers le petit matin, après un verre de leche tiède que je me décidais à avaler. Alors le lendemain, alors que nous préparions notre visite chez le médecin, je me mis à pleurer. Et ma tante crut que j'allais vraiment mal. Je sanglotais, honteuse de mon mensonge, et puis je me mis pour lui faire comprendre à sauter, à chanter, à danser, pour lui montrer que finalement la fatigue que j'avais prétendu sentir et pour laquelle mes parents étaient si inquiets, comme le symptôme d'un cœur faible ou d'un cœur affaibli, tout cela n'était que mensonge. J'allais bien, j'allais même très bien, je voulais simplement changer de terre, changer du ciel que je voyais au-dessus de la terre de Mangas à Ruiz. Tante Aurora me gronda pour mon mensonge, mais d'une façon très douce, qui confirma mes soupçons. En fait, elle était mon alliée. Bon, alors je ne crois pas que Françoise va reprendre, là elle est très contente d'écouter la lecture. La première semaine passa et nous ne savions que dire à mes parents. La difficulté de téléphoner de la ville au village nous sauva quelques jours. Mais la seconde semaine, nous reçûmes une lettre de mon père. Il était inquiet, il s'inquiétait de ma santé, il évoquait les angoisses de tous ceux que j'avais laissés derrière moi. Ma grand-mère qui récitait le chapelet à voix haute, mes deux petits frères qui avaient même décidé de se priver de biscuits, les fameux brevidades du petit déjeuner, pour les garder pour moi quand j'irais mieux. Mon petit cœur sain de fillette de 10 ans, née à Manas-Jesuich, dans cette terre étroite, sur ce point minuscule qui ne figurait sur aucune carte, ressentit de la douleur pour eux. Et c'est avec un vrai tourment dans la poitrine que je demandais à tante Aurora de finalement dire la vérité à mes parents, mais en même temps de les supplier qu'ils me laissent habiter avec elle. Finalement, elle dit que mes parents penseraient qu'elle n'était pas une personne très indiquée pour s'occuper d'une jeune fille. Je ne l'avais pas compris sur le coup, mais finalement, je m'étais rendu compte qu'une femme célibataire ayant fait des études, qui habitait seule dans la capitale, n'était pas en effet une très bonne image féminine pour ma famille traditionnelle. Je découvris, au fur et à mesure de mon séjour, que tante Aurora était professeure de musique. Pendant plusieurs années, elle avait même travaillé à l'ambassade du Brésil à Vienne. Elle avait fait bien d'autres voyages. Elle avait accompli une vraie formation musicale. Elle avait travaillé dans des bureaux, mais elle avait réussi finalement à faire sa vie autour de la musique. Sa vie, oui, c'était un violon et un globe terrestre. L'assentiment des miens ne vint pas tout de suite, au contraire. Je reçus une lettre de ma mère qui, d'une écriture laborieuse, me transmettait des messages compréhensibles de tous mes proches qui voulaient que je revienne, qui se réjouissaient que je ne fus pas vraiment malade, mais qui se lamentaient de ma décision ou de mon désir d'abandonner ma famille. Mes petits frères insistaient pour que je rentre, et si je rentrais, ils me donneraient tout leur brevidades jusqu'à la fin de leur vie. À la fin du mois suivant, alors que j'étais seule à la maison, un globe terrestre dans les mains, on sonna à la porte. Apeurée, je restais silencieuse. Tante Aurora m'avait recommandé de ne jamais ouvrir la porte en son absence. Mais la sonnette retentit à nouveau 2 fois et derrière la porte, je reconnus la voix de mon père qui appelait. Je ne répondis pas. Mais ma tante arriva très peu après et elle entra avec mon père, ou plutôt même dans ses bras. Ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. Ils pleuraient, oui, dans les bras l'un de l'autre pour fêter leur retrouvaille. Et nous dînâmes tous les trois. Tante Aurora et mon père se remémorèrent des histoires de famille, dont certaines que j'ignorais, bien sûr. Ma tante affichait une tranquillité assez déconcertante. Pas moi. Je savais qu'à la fin du dîner, mon père expliquerait la raison de sa visite et voudrait repartir avec moi. C'est bien ce qui se produisit. Une fois la table débarrassée, papa nous informa qu'il fallait repartir le lendemain, très tôt, pour Manas-Jesuich. Il remerciait tante Aurora pour son accueil et sa tendresse, mais vraiment, ma mère voulait absolument que je rentre, et toute la famille aussi. Aurora resta muette un instant, puis se déclara déçue, car elle avait programmé plusieurs sorties avec moi la semaine suivante. Avec l'accord de mon père et de toute la famille, elle aurait vraiment aimé tenir sa promesse. Si je pouvais rester encore quelques jours, elle se chargerait en personne de me raccompagner plus tard jusqu'à Manas-Jesuich. Je restais silencieuse. En fait, tante Aurora et moi n'avions convenu d'aucune promenade. Mais je sentis que la proposition prenait mon père par surprise. Et je compris assez vite pourquoi. En fait, tante Aurora n'avait plus aucun contact avec le reste de la famille. Elle n'avait pas remis les pieds à Manas-Jesuich depuis bien des années. Et la proposition tombait de façon vraiment abrupte. Alors troublé, mon père mit son chapeau et partit même le soir, sans attendre le lendemain matin. Je lui fis signe « au revoir » de la fenêtre. Il répondit à mon signe, il me bénit de loin et pressa le pas vers la gare d'autobus. Une semaine plus tard, mon père et ma mère débarquèrent tous les deux chez tante Aurora pour me ramener à la maison. Je compris alors la gravité du moment. Mon destin allait se décider sans que j'eusse un mot à dire. Mais ce n'était pas possible, ce n'était pas ma décision. C'était ma vie, mon futur, mon avenir. Je pleurais copieusement. Ma tante éclata en sanglots aussi. Ma mère me gronda de tout ce que j'avais fait. Mon père s'exprima d'une voix plus étouffée et nous parvînmes à un accord. Bon, je pourrais rester. L'année scolaire était presque terminée, j'avais eu jusqu'à là d'excellentes notes à l'école et j'étais déjà acceptée dans la classe supérieure. Donc, je pouvais rester, passer l'été avec ma tante et à la reprise des cours, je retrouverais Mana Sajvich et j'y reprendrais ma scolarité. Et puis, je reviendrai voir ma tante Aurora aux vacances et je pourrai revenir chez elle pour suivre des études au lycée dans quelques années. Oui, c'est ça. Je pourrais revenir habiter avec tante Aurora puisque l'enseignement à Mana Sajvich s'arrêtait au collège. Ce n'était pas tout à fait la solution que je voulais, mais c'était la seule possible pour l'instant. Et la vie suivit son cours. Voilà, toutes les vacances, j'accompagnais tante Aurora à des cours particuliers et au conservatoire aussi. Elle donnait des cours de piano, de violon et de harpe. Tout pour moi était nouveauté, tout m'enchantait. L'école de musique, les demeures des parents des élèves particuliers, et puis la patience, la discipline de ma tante, qui chez elle restait des heures à répéter et à travailler les instruments. Lors de ses concerts intimes, un jour, alors que j'habitais quasi définitivement chez elle, j'assistais à une des scènes les plus émouvantes de ma vie. Tante Aurora jouait du violon, moi j'avais les yeux fermés, et soudain j'entendis un son différent. J'ouvris les yeux. La musicienne et son violon pleuraient. Oui, c'est ça. Je voudrais un jour reproduire cela dans une peinture. Mais comment peindre la solitude et l'extase à la fois d'une femme avec son instrument? Comment peindre concrètement la soledad humaine et aussi la saudade, bien sûr? Alors, avec tante Aurora, j'appris la musique. J'appris, moi, le piano. Et ensuite, je découvris un instrument traditionnel africain, la kora, la harpe africaine, que j'appris à jouer et que je continue à jouer régulièrement. Je pus suivre des cours d'anglais grâce à un accord entre tante Aurora et un parent d'élève. Elle donnait à son fils des cours de harpe et moi, j'allais au cours de l'English School, dont il était directeur, sans payer. Quant à la peinture, deux moments marquèrent la découverte de ce don que je portais en moi. Toute petite, j'avais toujours aimé dessiner. Soit je copiais la nature, soit je l'inventais. Alors, la connaissance de la multiplicité des couleurs comme issue du monde dans lequel j'étais née me survoltait. Un monde multicolore. Je me rappelais les plantations, l'altération des couleurs au fil des saisons, l'altération des fruits aussi, avec leur maturation. La variation des tons, des pelages des animaux, des plumes des oiseaux, des insectes, de la terre. J'étais fascinée par les couleurs, les tonalités changeantes du ciel, la variation de l'éclat des étoiles, le kaléidoscope de ces couleurs de la nature. Je n'aurais jamais imaginé avoir le don de l'aquarelle, mais je fis l'expérience de ma première peinture consciente un jour avec, à nouveau, les élèves de ma tante. Et je réalisais sans arrêt ensuite des peintures aussi avec mon sang. Eh oui, ma galerie intime, elle comporte des aquarelles et des peintures pour lesquelles je m'entaillais les mains, les bras, pour avoir ce matériau premier du sang. Je fis de nombreux essais, avec du matériel de peinture, avec des pigments, avec tout ce que m'avaient appris les femmes de ma famille, pour utiliser le suc des plantes, pour mettre à macérer des feuilles, puisque dans la famille, on teignait nos habits et on colorait naturellement notre garde-robe. Je me souvenais avoir vu faire ma mère, ma grand-mère, de ce savoir en effet hérité des terres africaines. Alors, mon art, ma peinture, elle vint de moi, elle vint de ma tradition et elle vint de mon corps. Le plaisir tactile est immense. J'utilise de moins en moins le pinceau, j'y ai presque entièrement renoncé. J'utilise aussi pour peindre mes doigts et mon corps. Oui, quelquefois je me coupe et je peins avec mon sang, mais de toute façon je peins avec mes doigts, avec mes mains. Je suis comme moi sur la toile, je peins avec moi sur la toile. C'est la narratrice qui reprend la parole. Je regardais les mains et le visage de cet artiste. Et je vis alors sur sa peau noire des cicatrices profondes, oui, au niveau des bras. Et elle me dit « Regarde ces tableaux ». J'eus l'impression, en effet, que sa vie avait saigné. Ces tableaux, oui, ils sont fascinants. Ils mêlent la parole et le geste. Ils sont comme ses mains, taillées dans une matière première. Et ces tableaux, oui, je les ai connus depuis, et elle, elle est devenue une artiste reconnue. Voilà, c'est comme ça que Marie Benedita était entrée dans ma vie, et c'était comme ça qu'elle était entrée dans l'art. Eh bien, avec l'histoire de Marie Benedita, nous allons vous laisser quelques minutes pour un petit peu de musique brésilienne. Bon, évidemment, le choix était large. J'ai été chercher une femme quand même, une femme qui chante, c'est Miúcha. Et Miúcha va nous chanter « O que será ?» Et c'est Sonia qui va nous passer Miúcha. Merci.
O que será que me dá, que me pole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz curar? E que me salta os olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendiga, me faz implorar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. Gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo.
Merci Miúcha. C'est une musique de Chico Buarque, mais quand même interprétée par Miúcha. C'était chouette. Et puis j'aime bien cette accélération qu'elle fait là, un peu comme en effet l'avenir allait s'accélérer, ou la vie allait s'accélérer. C'était un petit peu l'histoire de Marie Benedetta, et c'est l'histoire de beaucoup des personnages, finalement, de Concessa Evaristo, parce que c'est la vie, quoi. C'est le choix de la vie. Dans son recueil, il y a des histoires un peu triviales, il y en a d'autres plutôt amusantes, enfin il y a un peu de tout, et les personnages, comme leur auteur, très souvent arrivent à rire des vicissitudes de l'existence, et c'est comme ça qu'elles se construisent. Et puis il y en a quand même d'autres beaucoup plus sérieuses et éventuellement intimes, enfin faisant référence en tout cas à leur vie intime. J'ai retenu celle de Libia Moira, qui, par son explication, je dirais, psychanalytique, est tout à fait universelle. Alors, cette fois, c'est Françoise qui va essayer de nous la lire.
De toutes les femmes avec qui j'ai parlé, Libia Moira fut la plus réticente à me conter un peu sa vie. En premier lieu, elle voulut savoir pourquoi j'avais autant envie d'écrire des histoires de femmes. Et dans un deuxième temps, elle me demanda s'il ne serait pas plus facile que j'inventasse mes histoires plutôt que de voyager de par le monde et de faire parler les gens pour tout retranscrire ensuite. Je ne répondis qu'à la dernière provocation de Libia Moira. J'invente, Libia, j'invente. Parle-moi un peu de toi. Donne-moi les premiers vers et j'inventerai la suite, une histoire en prétendant que c'est la tienne. Et un rêve, je peux ? Demanda Libia. Sa voix perdit son ton provocateur et elle me conta calmement quelques-uns de ses rêves et désirs. J'ai passé ma jeunesse persécutée par un rêve, ou plutôt un cauchemar. Cela commença, je me souviens bien, lorsque j'avais environ 5 ans. La sensation que ce rêve me causait était tellement oppressante que je passais parfois des jours et des jours sans vouloir dormir. Dans ces moments de terreur, je courais me réfugier dans la chambre de mes parents. J'avais l'espoir qu'ils m'accueilleraient, car mon petit frère, qui avait 4 ans, y dormait. Mais jamais ils ne m'acceptèrent. Maman, lorsqu'elle se réveillait, me renvoyait dans ma chambre sans me consoler, et très souvent, mon petit frère était banni lui aussi. Nous devions alors nous contenter en pleurant de la compagnie de nos sœurs plus âgées, qui en profitaient pour se moquer de mes peurs et de l'attachement de mon petit frère à papa et maman. La présence de mon petit frère à mes côtés apaisait un peu l'interdiction angoissante que je m'imposais de ne pas dormir. Et quand, vaincu par le sommeil, je finissais par m'assoupir, le cauchemar revenait me tourmenter. Toujours le même, moi, perdu dans un lieu indéfini, seul, et observant une chose grande, très grande, cherchant désespérément à sortir d'un petit trou. La chose finissait par s'en extirper, et moi, de l'extérieur, ressentais une douleur intense. Je me réveillais en criant, en pleurs. Mes sœurs n'étaient plus étonnées, et étaient juste gênées d'avoir le sommeil perturbé par mes cris. Les aïeules de la famille y allèrent de leurs conseils. Remèdes, bénédictions, jugements, diagnostics, sans compter l'impossibilité de passer les vacances ou ne serait-ce qu'une nuit chez mes grands-parents, mes tantes ou un parent quelconque. Comment supporter une petite fille qui se réveillait en hurlant la nuit, perturbant avec son rêve constant et tourmenté tous ceux qui habitaient avec elle? Mes sœurs et les autres enfants y allèrent de leurs surnoms et blagues blessantes. Quand j'avais 10 ans, ils prétendirent que je ne mourrais jamais, car les adultes, lorsqu'ils... Car les adultes, lorsqu'ils étaient prêts à mourir, s'endormaient pour se réveiller morts. Tout cela parce qu'une dizaine de personnes de notre famille étaient mortes dans leur sommeil.
Oui, d'habitude, entre guillemets, dans cette famille, les gens meurent en dormant. Donc, puisque elle ne dort pas, elle ne mourra jamais.
Un tourment supplémentaire s'ajouta à mes jours déjà si angoissés. Je m'imaginais vieille, très vieille, la personne la plus vieille du monde, d'une faiblesse extrême, incapable de travailler et malgré tout devant supporter la vie. Et tout se confondit dans mes souffrances. Moi seule, perdue dans mon rêve, voyant une chose très grande s'extirpant d'un petit trou, se mélanger à l'image de moi, seul, perdu dans le monde, seul être vivant à ne jamais mourir. Malgré mon jeune âge, je décidai de me tuer. Je fis plusieurs tentatives pour en finir avec ma vie. La première fois, je décidai de me jeter dans les eaux de la rivière qui traversait nos terres. J'attendis patiemment plusieurs mois la saison des pluies, lorsque le lit de la rivière gagnait une profondeur dangereuse, et me jetai à l'eau. Rien ne se passa, ou plutôt tout se passa. À peine commençais-je à être entraînée par les eaux tumultueuses que je me retrouvais coincée par des branches d'arbres en travers du courant. Ma robe accrochée, moi tout emmêlée, et incapable de me libérer de l'arbre de la vie. Pendant ce temps, à la maison, mon père et deux travailleurs agricoles s'étaient aperçus de mon absence et étaient partis à ma recherche. Ils ne me demandèrent jamais comment j'avais atterri là, mais ils me sauvèrent de la mort que je souhaitais pourtant si ardemment. Un an, plus ou moins après cet événement, je décidai d'avaler du poison, mais je fus encore une fois protégée par la vie. Je savais que dehors, dans l'armoire de la cabanette, où étaient gardés les outils des hommes qui cultivaient la terre, il y avait des bidons de pesticides et de la soude dont j'ignorais l'utilité mais devinais la létalité à la vue de la tête de mort dessinée sur l'étiquette. Je voulais mourir par la violence pour me faire violence. À cette période, je ne croyais déjà plus que la mort ne rendait visite qu'à ceux qui dormaient. Le succès de ma propre extermination me fut de nouveau refusé. C'était un dimanche matin, jour de célébration de notre sainte Notre-Dame du Rosaire, la sainte protectrice des Noirs. Tardant à me préparer pour la messe, je laissai mes parents aller à la chapelle avec mes sœurs et mon petit frère, et je leur dis que je les rejoindrai plus tard avec mes oncles. Profitant de l'absence des travailleurs agricoles qui ne venaient pas travailler en ce jour saint, j'allai chercher la clé de la cabanette. Je réussis à ouvrir la porte et localisai facilement la soude caustique sur l'étagère tout en haut, quasiment à la hauteur du toit. Je montai sur la seule échelle de bois qu'il y avait, mais mes bras étaient loin de pouvoir atteindre l'objet désiré. Énervé par la difficulté qui se dressait devant moi, gagné par la colère, je désirais d'autant plus la mort. Oui, j'allais mourir, mais à peine sortis-je de la cabanette à la recherche de quelque chose, un bout de bois, un manche à balai, quelque chose enfin, pour faire tomber la boîte en métal, que j'entendis mon père approcher. Je l'entendis également se demander à voix haute qui avait bien pu oublier de fermer la porte de la cabanette. Mon père, ne me voyant pas arriver, était revenu me chercher. Et plus jamais, malgré de nombreuses tentatives, je ne réussis à remettre la main sur ces clés, clés de ma délivrance, imaginais-je. Et le rêve continuait à me persécuter encore et toujours. À la troisième tentative pour en finir avec moi-même eut lieu bien plus tard, alors que j'avais 23 ans. J'étais plus ou moins heureuse, terminais mes études supérieures en économie et venais d'être embauchée par une grande entreprise après un stage prometteur. Un camarade de l'université organisait sa fête d'adieu dans une maison à la campagne. J'avais un peu bu et tombé de sommeil. Mais du fait de la distance, tout le monde décida finalement de dormir sur place. Je paniquai. Je m'endormis et me réveillai soudain en criant et en pleurant. Passé les premières minutes de peur de mes camarades et des propriétaires de la maison, l'épisode se transforma en plaisanterie. La semaine suivante, j'étais devenue la cible des moqueries, à l'université comme au travail. L'idée du suicide refit surface et cette fois, elle fut presque victorieuse. Je me jetai contre une voiture qui roulait à toute allure. J'en ressortis en morceaux et restai un an et demi prisonnière sur un lit. Et le pire, c'est que dès que je m'endormais, le jour ou la nuit, le rêve malfaisant revenait me visiter. Moi, perdue dans un lieu indéfini, seule et observant une chose grande, très grande, cherchant désespérément à sortir d'un petit trou. La chose finissait par s'en extirper et moi, de l'extérieur, ressentais une douleur intense. Ma vie continua ainsi, perpétuellement tourmentée par cette image. Je fus courtisée, j'eus des petits amis, mais refusais toujours de construire une vie intime durable, par honte de devoir partager mes nuits douloureuses avec quelqu'un. le temps de toutes les thérapies que j'ai pu faire, psychanalyse, hypnose, yoga, relaxation, m'apportèrent une infime amélioration. Les rêves me hantaient encore, la douleur physique m'agressait encore, mais je ne criais ni ne pleurais plus. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu donne du sens à ce rêve. Le jour de la fête d'anniversaire des 50 ans de mon frère cadet, le petit dernier de nous quatre, regrettant l'absence de nos parents qui nous avaient quittés, nous décidâmes malgré tout de fêter la vie. Cette fête, pour ses 50 ans, serait une célébration de sa vitalité retrouvée après la grave maladie qui l'avait touchée une dizaine d'années auparavant. J'avais cessé de désirer la mort lorsque la maladie de mon frère s'était déclarée. J'avais eu honte de moi en voyant la détermination avec laquelle mon frère avait lutté pour vivre. Ces 50 ans furent donc l'occasion d'exalter la vie qui s'obstinait en chacun de nous. Nous évoquâmes des souvenirs d'enfance. Un moment me toucha particulièrement après qu'il eut soufflé ses bougies et coupé la première part de gâteau. Symboliquement, il offrit la première part à sa femme qui, devant le geste de tendresse publique et mérité de son mari, l'offrit à son tour à leur fille, la seule de leur couple, qui me l'offrit à son tour à moi, sa tante préférée. Quand je me vis avec la part de gâteau dans les mains, moi qui n'avais jamais pensé à la maternité, je souhaitais soudain un enfant. Ce serait bien sûr à lui que j'offrirais la première part du gâteau. L'image de cet enfant que je désirais pour la première fois de ma vie se confondit avec le visage de mon frère cadet. Et alors que je me retournais vers lui pour lui tendre ma part de gâteau, qui était partie de ses mains et revenait dans les siennes, je vis et compris tout. Le jour de la fête de ses 50 ans, affleurèrent du plus profond de ma mémoire des visions que ma tante confirma ensuite. Ce retour dans le passé me permit de trouver un sens à la souffrance que je portais, que j'avais portée toute ma vie. J'avais vu mon petit frère naître, bébé, debout dans le berceau dans lequel je dormais dans la chambre de mes parents, accroché au barreau. J'avais assisté à l'accouchement de ma mère. Le bébé naissait avant terme. Les adultes, trop occupés par l'urgence du moment, m'avaient oublié. Ma mère saignait et criait. Et moi, abandonnée dans mon berceau, perdue dans un lieu indéfini, seule, j'observais une chose grande, très grande, cherchant désespérément à sortir d'un petit trou. La chose finissait par s'en extirper, et moi, de l'extérieur, ressentais une douleur intense.
Bon, ben je suis bien contente pour cette jeune femme qu'elle ait fini par trouver la solution de son problème. Mais je me suis quand même dit à la lecture que d'une part sa famille, d'autre part ses camarades n'avaient pas été très aidants, n'avaient pas été très compatissants et n'avaient pas vraiment cherché à l'aider. Quand paraît-il au psychanalyste ou à la psychanalyste qu'elle avait consultée, alors là, moi, je ne la recommanderais à personne. Hein, parce que si elle a vraiment fait une analyse, on pourrait dire quand même que pour ne pas avoir trouvé ça, le psychanalyste ou la psychanalyste analyste ne devait pas être très bon. Mais enfin, bon, passons. C'est vrai que l'histoire de la grosse chose qui cherche à sortir par un petit trou, c'est assez amusant parce qu'on imaginait, enfin, je ne sais pas ce que vous aviez imaginé, vous, mais j'imaginais plutôt quelque chose, puisqu'on est au Brésil, dans la nature, dans la jungle, dans la forêt profonde, comme on dit, etc., etc. Eh bien, non. C'était simplement le petit frère qui naissait dans la douleur, de sa mère, mais aussi dans la douleur de sa petite sœur, encore très petite à l'époque. Alors, il nous reste quelques minutes, je suis vraiment désolée, comme on avait commencé tard, ben on a un petit peu du temps en moins. On va continuer et finir avec l'histoire d'une femme qui, elle, se réalise par la danse, mais qui se réalise par la danse au bout d'un certain moment, justement au bout d'un certain temps. Voici ce que dit la narratrice. Lorsque je vis Rose Douceresse pour la première fois, de loin, dansant dans la salle du bal du club de ma ville, je crus qu'il s'agissait d'une jeune fille. Et après m'être rapprochée, je me trouvais en fait face à un petit bout de femme d'une extrême fragilité, mais déjà vraiment âgée. Et elle était comme toutes les autres femmes présentes au bal, mais encore plus comme atteinte par la danse, comme invitée par la danse. Elle était d'ailleurs très sollicitée par des partenaires, des hommes de son âge, mais aussi des hommes beaucoup plus jeunes. Elle était la musique, elle était la danse, et je passais une grande partie de la soirée à observer cette délicate danseuse tournoyant seule ou dans les bras de ses partenaires. Rose Douceresse, elle était, oui, ballerine et danseuse, c'était sa profession. Elle avait ignoré tout son environnement, elle était devenue professeure de danse, classique, moderne, afro, jazz, claquette. Enfin, elle avait fondé une école, c'est vrai que l'église tient une bonne part dans l'histoire, mais quand même. Elle avait fondé une école, donc, tout près du club social de la ville, et cette école de danse était devenue la plus courue de la ville. Quand elle m'avait vue, moi, dans mon coin, elle m'avait invitée à l'école. Je lui avais dit que je n'étais vraiment pas douée pour la danse, mais j'avais accepté son invitation avec plaisir. Rose Douceresse me reçut justement dans son école à bras ouverts et c'est là qu'elle me raconta son histoire. Elle me raconta son histoire, oui, mais après m'avoir pris dans ses bras et après m'avoir fait danser. Parce qu'en fait, c'était ça qu'elle disait. Elle me dit « Je suis née avec la vocation de la danse et c'est vraiment ça qui signifie ma vie. Ma famille ne voulait pas que je danse que je prenne des cours de danse pour en vivre. Ça ne se mange pas, la danse, disait-il. Et c'était pas ça qui te fera manger. Eh bien, si, voilà, je me suis acharnée, j'ai pris des cours et j'ai fini par devenir danseuse professionnelle. J'étais noire et pourtant, à l'époque, la danse classique était la seule qu'on pouvait véritablement apprendre. Et en étant noire, la danse classique, non, ce n'était pas possible. On me suggérait de chanter, de faire du théâtre, de faire des compétitions de volley-ball ou même de football, hein, on était au Brésil. Mais moi, non, je voulais danser et au début, la danse classique m'était fermée. Finalement, un de mes professeurs me demanda si je voulais, dans un spectacle, jouer le rôle d'une poupée noire. Une poupée qui devait danser et chanter. Je représenterais le personnage d'une histoire infantile très connue à l'époque. Alors oui, bien sûr, au comble du bonheur, je me jetais corps et âme dans la préparation de ce rôle. Ce serait moi, la poupée noire. Les répétitions avaient lieu dans la cour de l'école et le public fiévreux avait commencé à assister à ces répétitions. Et puis un jour, mon professeur me dit « Ben non, ce n'est pas toi qui joueras ». Le spectacle, c'est dans 2 jours. Et dans 2 jours, non, pas possible d'avoir une poupée noire. Tout le monde a bien dit que, dans l'histoire, c'était une poupée blanche. Et ce fut une petite fille blanche qui joua le rôle de la poupée. Les douleurs et les violences que j'ai subies à cette époque, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Les douleurs et les violences de cette ségrégation, de ce choix que je subis alors que je n'avais que 9 ans, c'est quelque chose de terrible, je m'en souviens encore. Mais je décidais de continuer. Et à cette époque, je découvrais, oui, ce qu'on appelle la saudade. Et la saudade, ça peut être aussi une douleur physique. Je me réveillais le matin moulu de douleur. J'avais l'impression que j'avais été enfermée dans un corps qui n'était pas le mien. Alors, tout de même, je continuais des cours en intruse, avec toujours le même professeur, qui, bien qu'il ait refusé de me faire paraître sur scène, acceptait justement de me recevoir gratuitement pour les cours. Je continuais, je m'acharnais, oui, et je finis par devenir élève dans une institution secondaire où il y avait justement des cours de danse gratuits. Dans cette institution, nous étions un certain nombre de jeunes filles à suivre les cours de danse et cette fois-là, j'eus vraiment une éducation identique à celle des jeunes filles riches qui fréquentaient l'institution. Je ne fus écartée d'aucun programme. Je finis par avoir une lettre de recommandation d'un des professeurs de danse du lycée et cette lettre m'ouvrit de nombreuses portes. Je fus d'abord la danseuse noire d'une troupe, une troupe brésilienne, oui, où c'était plus facile d'être accepté. Et puis, peu à peu, la troupe étant connue sur le plan international, je devins une danseuse noire, oui, une danseuse noire, même sur les scènes étrangères. On me demande maintenant si j'ai souffert, oui. Je réponds que cela dépend. J'ai souffert comme tout le monde aurait souffert de la discrimination, mais j'étais heureuse de la danse. Le bonheur de la danse était finalement plus grand que les souffrances que j'ai pu endurer. Et maintenant, je suis complètement absorbée dans ma vie. Et vous voyez, cette école de danse, c'est mon œuvre. Cette école de danse, c'est ce qui m'a gardé ma force. C'est ce qui m'a gardé mon corps. Alors, nous dit la narratrice, oui, c'est vraiment ça. Cette femme âgée, elle paraît fragile comme un oisillon dans l'air. Mais elle a en elle une fabuleuse force physique, une fabuleuse force morale, cette force qui lui a permis de réussir dans ses projets, de réussir dans sa vie, malgré tous les obstacles qu'on a pu lui mettre dans les mains et dans les pieds, bien sûr. Alors les pieds, oui, elle les a levés avec grâce et elle a franchi les obstacles. C'était donc l'histoire de Rose Douce-Rice. Et nous terminons sur une autre que j'évoquerai très vite puisqu'on n'a pas beaucoup le temps. Mais elle est quand même assez drôle et assez emblématique puisque la dernière histoire, c'est l'histoire d'Anastasia. Et Anastasia, c'est une reine. Elle s'appelle Regina Anastasia. Et elle est comme beaucoup d'autres personnages du livre, elle est native d'un petit village pauvre du Minas Gerais, et elle rencontre un petit peu par hasard le fils de la grande famille dominante du village, et même de la petite ville où elle habite, parce que en fait elle est commissionnaire pour cette famille et elle rencontre donc le fils de la famille. Elle est séduite par ce garçon, mais il est aussi séduit par elle. Et il rompt avec sa famille pour pouvoir l'épouser. Alors, c'est un peu l'histoire, évidemment, du prince qui épouse la bergère. Mais en l'occurrence, le prince est répudié par sa famille, c'est-à-dire que parce qu'il a épousé la bergère, eh bien, il est complètement rejeté de sa famille. Et ce qui est amusant, c'est que c'est lui qui s'installe dans la famille de sa belle. Sa belle qui devient non pas bergère, mais boulangère. Et figurez-vous que ce couple de boulangers et de boulangères connaît presque la fortune. Ils vont développer non seulement leur boulangerie, mais une chaîne de boulangerie au Brésil. Ils vont vraiment réussir et ils vont coiffer sur le poteau de la fortune les parents du jeune homme qui sont restés les propriétaires terriens du Minas Gerais, alors que les jeunes, le couple de jeunes justement qui a réussi, devient des gens, disons, connus dans la bonne société brésilienne. C'est donc la vengeance de Regina Anastasia sur le sort, sur la société brésilienne, sur la répudiation des riches qui finalement vont peu à peu beaucoup apprécier ces produits de boulangerie et de pâtisserie. C'est les petits gâteaux d'Anastasia. Vous savez, elle vendait les petits gâteaux. Eh bien, elle a vendu des petits gâteaux, elle a fait fortune et elle a donné des leçons aux méchants, entre guillemets, de la société qui s'était opposée à sa réussite. Alors voilà, on va finir sur cette belle histoire du prince et de la boulangère, de la petite reine Regina devenue boulangère et ayant fait fortune grâce à ses petits gâteaux. Et on va vous laisser justement avec des histoires pour enfants dans l'émission prochaine. Donc ça sera une bonne liaison entre nos émissions. Et nous retrouverons, écoutez, je ne sais pas, peut-être aussi dans d'autres pays chauds la semaine prochaine, on verra. À bientôt, bonne semaine.
Here's a song that comes from Tanzania.